Nous allons poursuivre par notre sujet principal, qui va porter sur la Fondation pour le logiciel libre, avec Geoffrey Knoth, président de la Fondation, Odile Benassi, développeuse de logiciel libre et administratrice de la FSF depuis quelques mois. FSF voulant dire Free Software Foundation, donc Fondation pour le logiciel libre. Alors, on va vérifier que nous avons nos invités au téléphone. Est-ce que Odile est au téléphone ?
Bonjour Frédéric.
Bonjour Odile. Geoffrey, est-ce que tu es au téléphone ? Bonjour, super. Je précise que les personnes sont invitées évidemment à participer à l'émission en posant des questions, réactions sur le site de la radio causecommune.fm, bouton de chat, et vous nous rejoignez sur le salon Libre à vous. Alors, le but de l'émission aujourd'hui, c'est un petit peu de faire mieux connaissance avec la fondation historique du logiciel libre, hein, qui vient de fêter ses 35 ans, donc avec Geoffrey Knoth, qui est le président de la fondation depuis quelques mois, et Odile Benassi, qui est administratrice de la fondation également depuis quelques mois, mais Geoffrey est présent à la fondation depuis très très longtemps. Alors, d'abord, première question, une présentation un petit peu question de personnel, pour un petit peu mieux vous connaître. Voilà, en quelques mots, qu'est-ce que vous faites à titre professionnel ? Quand et comment avez-vous découvert le logiciel libre et... quel a été votre premier contact avec la FSF, avec la Fondation pour le logiciel libre ? Donc, trois questions en une. On va commencer par Geoffrey.
Ok. Je travaille comme un programmeur pour AccuWeather, c'est météorologie, qui concerne le logiciel libre. Je connais Richard Stallman, le fondateur, depuis 1985, quand il a écrit le GNU Manifesto, et je travaillais sur les logiciels libres de ce temps.
D'accord. Alors, j'en profite aussi pour remercier Geoffrey. Comme vous l'entendez, il intervient en français, mais Geoffrey n'est pas, c'est pas la langue naturelle, le français, donc je le remercie d'intervenir. Et c'est une bonne continuité avec Richard Stallman, qui lui-même parlait très bien français. Alors, on reviendra tout à l'heure sur la succession de Richard Stallman, évidemment. Odile, les mêmes questions. Qu'est-ce que tu fais à titre professionnel ? Quand as-tu découvert le logiciel libre et quand as-tu été en première fois en contact avec la Fondation pour le logiciel libre ?
Eh bien, je développe des interfaces pour un logiciel pour les mathématiciens. Donc, je fais du logiciel libre depuis de très nombreuses années maintenant. Mais j'ai fait d'autres choses avant dans ma vie. Et bien, le logiciel libre, je l'ai découvert très vite parce que dès que j'ai voulu faire des logiciels, ça m'a paru impossible de fonctionner avec des interfaces propriétaires comme ça. Très très vite, je suis tombée dedans. Ça a même commencé par un voyage aux États-Unis d'ailleurs, tellement l'enthousiasme était grand. Et quant à la Free Software Foundation, eh bien, quand on rentre un petit peu dans l'univers du logiciel libre, on entend vite parler de cette fondation et elle est là pour conserver et faire vivre les valeurs du logiciel libre, ce qui est très important.
Merci pour cette introduction. Donc, effectivement, le point essentiel de cet échange est de faire connaître évidemment la fondation et notamment les points clés, son rôle unique, et ce qu'on va un petit peu décrire. Alors, on va pas présenter tout ce que fait la fondation pendant l'émission parce qu'elle fait beaucoup de choses, mais on va insister vraiment sur ce rôle unique. Alors déjà, donc, première question, dans l'émission Libre à vous, on parle très souvent de logiciel libre, mais on parle de temps en temps, enfin assez souvent, de la fondation pour le logiciel libre. Si vous deviez résumer en quelques mots, vous rencontrez quelqu'un dans une soirée, alors aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de soirées, mais imaginons, en quelques mots, comment vous résumeriez ce qu'est la Fondation pour le logiciel libre ? C'est Geoffrey.
Ah, c'est pour garder la liberté des logiciels libres pour tout le temps.
D'accord. Et Odile ?
Ben oui, c'est ça, c'est faire connaître aussi les valeurs, les principes du logiciel libre et faire comprendre pourquoi c'est important aussi.
D'accord. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la fondation donc a été créée en 1985. On va juste faire un petit point historique pour que les gens comprennent bien, parce que le logiciel libre est de plus en plus connu depuis, on va dire, 10-15 ans, mais existe depuis beaucoup plus longtemps. Donc, si on fait un court résumé, l'un des moments fondateurs du mouvement du logiciel libre, c'est 83-84 avec Richard Stallman qui crée notamment qui lance le projet GNU visant à créer un système d'exploitation entièrement libre. Et en 1985, donc, il crée une fondation, la Fondation pour le logiciel libre, qui donc a priori a deux grands objectifs en tout cas, c'est promouvoir et défendre les valeurs du logiciel libre et développer des logiciels libres. Est-ce que ce sont les deux axes d'action de la fondation ?
Si j'ai bien compris, la FSF en fait a été créée pour soutenir, au départ, pour soutenir le projet GNU, qui était donc un projet de logiciel libre. C'est pour apporter des billes, apporter une artillerie juridique, et pour faire en sorte que le projet GNU puisse vivre correctement. Des billes juridiques et financières. C'est ce que je comprends, parce que moi, j'étais pas là au tout début de la fondation, de la Free Software Foundation. Est-ce que je réponds à ta question ?
Alors, on va demander à Geoffrey si ça correspond. Vu que Geoffrey a dit qu'il connaît Richard depuis 1985, est-ce que donc la création de la fondation, c'était donc pour apporter ce que... Alors, des billes juridiques, c'est-à-dire pour apporter un contexte juridique et du soutien pour le développement, notamment du projet GNU ?
On a des licences juridiques, si c'est votre question.
Oui.
Le licence GNU et copyleft. Odile, vous pouvez expliquer quelles sont les licences ?
Oui, c'est la FSF qui a créé les licences, la GPL. La GNU Public License, qui est la licence libre la plus employée. Donc c'est de cette manière sans doute que la FSF a contribué à solidifier le projet GNU, mais aussi en cherchant des fonds, de l'argent pour que le projet GNU puisse continuer à exister. D'ailleurs, la FSF fournit des moyens à pas mal de projets de ce genre.
D'accord. Alors... Vu qu'on parle de l'aspect juridique, on va rester sur cet aspect quelques minutes, même si après on va revenir sur les campagnes actuellement menées par la FSF, mais c'est intéressant que les gens comprennent. Geoffrey a utilisé le mot copyleft, qu'on traduit généralement en France par gauche d'auteur, parce que c'est un jeu de mots avec droit d'auteur. Donc c'est une licence de logiciel libre qui a une spécificité, c'est qu'à partir du moment où on utilise un code qui est sous cette licence-là, qu'on en fait des modifications et qu'on le redistribue, on doit le redistribuer dans les mêmes conditions, ce qui garantit la conservation de la liberté initialement accordée par le développeur ou par la développeuse. Et c'est aujourd'hui encore l'une des licences les plus utilisées dans le monde. Et ce qui est intéressant par rapport, enfin ce qui est un point important dans le rôle de la FSF, de la Fondation pour le logiciel libre, c'est que la Fondation est responsable de l'évolution de cette licence. Il y a eu plusieurs versions de cette licence. Alors de mémoire, la première ça devait être 89, la deuxième 91 et la dernière 2007 si je me souviens bien. Donc la FSF joue un rôle très particulier parce qu'elle est l'éditrice de cette licence et de ses évolutions. Donc s'il y a une GPL version 4, c'est la FSF qui va la faire, et ça va évidemment avoir un impact considérable sur le monde du logiciel libre. Est-ce que je résume bien ce qu'est la GPL, la GNU GPL et le copyleft, Geoffrey?
J'ai pas tout compris parce que la qualité du transition, c'est pas.
Oui, c'est difficile.
Odile, vous pouvez m'aider?
Je pense que c'est ça, oui. Le copyleft, c'est bien une façon de renverser le droit d'auteur pour le faire en sorte qu'il soit au service des utilisateurs et non pas pour restreindre leurs droits. Donc la FSF est responsable dès le départ de l'établissement de cette licence GPL et de son évolution, et également de la faire respecter. C'est-à-dire qu'il faut de temps en temps faire des courriers ou même des procès à des entités qui ne respectent pas la licence.
Oui, c'est ce qu'on appelle le travail de mise en conformité. Comme il y a une obligation lorsqu'on redistribue, comme je l'ai expliqué, effectivement, il y a généralement les gens respectent cette obligation, mais il y a toujours des gens qui décident de ne pas le faire. Et donc, une des actions de l'équipe juridique de la FSF, alors je pense que c'est, si je me souviens bien de mémoire, Donald Robertson qui s'occupe de ça au sein de la FSF, est en charge de faire respecter son fonctionnement de la GNU GPL, donc des libertés. Principalement par la discussion avec les gens qui ne respectent pas la licence, et éventuellement avec des poursuites si nécessaire. Donc c'est un rôle très important. Et donc est-ce qu'il y a une équipe juridique au sein de la FSF ou est-ce qu'il y a, enfin, même une seule personne qui s'occupe de cette mise en conformité?
Oui, on a ça dans la fondation. Oui.
Alors j'ai une question, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est des gens qui vous contactent ou est-ce que c'est vous qui vous rendez compte qu'il y a peut-être un problème quelque part avec...
Les deux.
Les deux ?
Les deux.
D'accord. Et est-ce qu'il y a beaucoup de... sans rentrer forcément dans les détails, est-ce qu'il y a beaucoup de caps dans la, par an que vous traitez?
Ça dépend, de temps en temps, oui.
Est-ce qu'il y en a, combien il y en a chaque année de cas, à peu près?
Des dizaines.
Plusieurs dizaines.
Ah oui, c'est quand même beaucoup. Bon, on va, c'est un sujet très juridique, donc on ne va pas rentrer dans le détail. Et comme je l'ai dit dans une précédente émission, on va refaire en 2021 une émission sur la partie licence logiciel libre avec notamment Olivier Hugo, qui a eu déjà un avocat français, qui a déjà traité des mises en conformité de la GNU-GPL dans le droit, enfin par rapport en France. Donc on rentrera dans le détail à ce moment-là. Mais c'était important d'aborder ce point-là, ce rôle essentiel. Donc voilà, dans les licences libres, il y a une licence particulière qui est aujourd'hui, je pense, là encore la plus utilisée. Donc c'est la GNU-GPL. La fondation est l'éditrice de cette licence, donc responsable de ses évolutions. Et elle a une équipe qui fait en sorte que les gens respectent cette licence quand des gens ne veulent pas la respecter. Avec l'objectif, c'est la liberté des utilisateurs et utilisatrices. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Odile ?
Une petite chose au sujet des licences. La GPL est effectivement la licence la plus utilisée. Ce n'est pas la seule possible. D'ailleurs, la FSF le projet GNU édite une liste de licences avec des commentaires sur chacune des licences parce qu'il y a effectivement toute une panoplie de licences possibles. Certaines sont plus ou moins recommandables parce qu'elles sont faciles à utiliser ou parce qu'elles sont ou pas du tout faciles à utiliser ou dangereuses pour certaines raisons ou au contraire très bonnes. Et ça, c'est bon de lire la liste des licences qui est publiée par le projet GNU pour se faire une idée.
Alors c'est une excellente remarque parce que effectivement il y a beaucoup de licences dans le monde du logiciel libre. Quand on emploie le terme licence libre, en fait ça ne veut pas dire grand chose parce qu'il y en a beaucoup avec des impacts différents. Et donc les personnes qui sont intéressées pour savoir si une licence est vraiment libre et quelles sont les conditions de son utilisation vont sur le site de GNU.org. Il y a une liste de licences reconnues comme libres et aussi une liste de licences reconnues comme non libres. Donc voilà, ça c'est pour les gens qui sont intéressés par ce sujet-là. Mais on reviendra en détail en 2021 sur cette thématique, on va dire, juridique qui est passionnante, mais qui est complexe, mais en tout cas qui est importante pour les personnes qui développent des logiciels libres. Donc là, c'est un des rôles de la Fondation, et c'est un rôle historique. Comme je le dis, la GNU-GPL, je pense que la première version, ça devait être 89, mais on vérifiera. Et évidemment, on mettra les références sur le site de la radio et sur le site de l'April, causecommune.fm et april.org. Donc, on va revenir sur d'autres activités de la FSF. Donc, la FSF a des campagnes. Parce que le but, c'est la promotion et la sécurisation des libertés informatiques pour tous et toutes. Et donc, la Fondation mène des campagnes. Donc, on va aborder quelques campagnes de la Fondation. Et je renvoie évidemment sur le site de la FSF pour l'ensemble des campagnes. Donc, le site, c'est fsf.org, comme Free Software Foundation. Alors, on va commencer par une petite campagne. Par un thème qui est important, qui est celui des sites web et du code JavaScript, qui n'est en général pas libre. Donc Jeffrey, est-ce que tu peux nous expliquer déjà un petit peu ce que c'est que JavaScript et quel est le problème que pose ce code JavaScript qui n'est pas libre?
La campagne JavaScript libre, Free JavaScript, est un effort continu pour persuader les organisations de faire fonctionner leur site web sans exiger que les utilisateurs exécute des logiciels non libres.
Voilà, mais c'est quoi JavaScript ?
Il faut que l'utilisateur a le droit de changer, d'examiner le code source et de comprendre ce qui se passe dans son ordinateur et dans son browser.
Oui, parce qu'il faut commencer peut-être par préciser que quand on fait tourner un site sur son ordinateur, quand on visite un site web sur Internet, eh bien, on utilise un navigateur, un logiciel qui s'appelle un navigateur, et le site, d'une manière générale, maintenant, la plupart des sites font tourner du code sur votre ordinateur. C'est du code JavaScript. Et donc, ce code, vous ne voyez pas ce qu'il fait, vous ne voyez pas ce qui se passe, vous ne voyez pas qui l'a écrit, ni rien du tout. Et quelquefois, vous ne pouvez même pas lire ce code. Si vous le souhaitez, tellement il est plus ou moins caché et il peut faire toutes sortes de choses ce code. La FSF a mis en évidence le fait que le code JavaScript pouvait savoir vous reconnaître à la façon dont vous tapez au clavier. Vous pouvez avoir des informations sur vous et vous reconnaître sur cette manière de taper. Donc c'est pour dire ils peuvent faire toutes sortes de choses sans qu'on le sache. Donc on est vraiment dans une problématique de logiciel libre et un des buts que s'est donné la FSF, donc, c'est d'essayer de convaincre les développeurs de sites, les fournisseurs de sites web, de faire se conformer leur code JavaScript au principe du logiciel libre.
Donc JavaScript, en fait, c'est un langage de programmation. Enfin, quand une personne va sur un site web, il y a une partie du code qui est exécutée sur le serveur sur lequel on se connecte, sur lequel on n'a pas accès, mais le navigateur exécute aussi un code qui est exécuté directement sur l'ordinateur de la personne, donc qui est écrit dans un langage qui s'appelle JavaScript. Et donc, comme tu le dis, en fait, ce code peut avoir du code malveillant, ça peut être du logiciel privateur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le modifier. Et donc, la campagne de la FSF vise, si je comprends bien, à deux choses. La première, c'est à informer sur les dangers potentiels de l'exécution de ce code privateur et potentiellement malveillant sur l'ordinateur de la personne. Et deuxième chose, encourager les développeurs et développeuses de code à le mettre en logiciel libre et à permettre à chacun et chacune de le modifier. C'est bien ça le but de cette campagne. C'est, enfin, les deux buts de cette campagne.
Je crois que tu as bien résumé si j'en juge par ce que je sais.
Ouais. Et donc à ce moment-là, je voulais juste rajouter peut-être un petit point sur donc la partie JavaScript, la campagne JavaScript. L'une des actions qu'a menée la fondation, c'est de proposer un plugin, un greffon au navigateur web, donc Firefox et autres, qui s'appelle LibreJS, qui permet en fait d'identifier le code JavaScript privateur sur une page, éventuellement de le désactiver, de gérer des listes blanches. Ça fait partie de la campagne menée par la fondation, ce plugin LibreJS. Jeffrey ?
Oui, c'est vrai. On doit l'utiliser, ce plugin JavaScript libre, oui, pour connaître si votre JavaScript est libre ou non.
D'accord. Et ce plugin permet quand même de gérer des listes blanches, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de sites, par exemple des sites sur lesquels on est quasiment obligé d'aller, des banques ou autres, qui ne fonctionnent pas sans JavaScript. Donc, de temps en temps, il faut pouvoir activer une liste blanche, c'est-à-dire permettre à l'exécution de ce code.
Oui,
même
c'est
si...
possible, Frédéric. Oui. Mais c'est la situation, quand on l'utilise, ce plugin, on se rend compte que la situation est catastrophique. La situation du... d'ailleurs, c'est une difficulté qu'on a dans les batailles du libre, c'est qu'en fait, on a à peine gagné quelque chose sur un terrain que ce sont de nouveaux terrains qui posent problème. Là, évidemment, actuellement, c'est les données personnelles, le cloud et puis donc JavaScript. Ce sont des nouveaux terrains qui nécessitent de nouvelles campagnes.
Alors, ça, c'est un point intéressant que tu viens de dire, il me semble, dans le rôle de la FSF. Alors, C'est ce rôle un peu, je ne sais pas si c'est unique, mais en tout cas qui me semble quand même assez unique, d'être capable d'anticiper, ou en tout cas de voir les problèmes qui vont arriver ou qui arrivent, et d'essayer de proposer à la fois des actions de sensibilisation et des actions correctives. C'est un des rôles, enfin pour moi c'est un des rôles uniques de la Fondation, c'est-à-dire cette capacité, un peu comme Richard Stallman en 83-84, quand il lance le projet GNU, il voit bien que le monde du logiciel libre, enfin les pratiques de partage de l'époque sont en train de disparaître et qu'il faut faire quelque chose. La Fondation est toujours un petit peu à la réflexion des problèmes qu'il peut y avoir, et ça me fait penser notamment à la liste des projets prioritaires à soutenir que maintient la Fondation par rapport à l'ensemble des projets qu'il faut maintenir. Pour moi, c'est un rôle qui me semble assez unique dans le monde du logiciel libre. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, et qui, il me semble, gagnerait à être plus relayé, ne serait-ce que cette campagne JavaScript, ça pourrait, comme il s'agit de s'adresser à des fournisseurs de sites web, c'est quelque chose qu'on peut faire dans chacun dans sa langue, et ça, on gagnerait à regarder un peu ce que fait la FSF et à voir si on peut l'adapter ou si on peut l'amplifier ou le faire savoir tout simplement.
D'accord. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur cette partie de cette campagne donc de JavaScript libre ?
Non, ça va.
Ok, d'accord. Alors, je pense qu'en plus qu'il y a un délai de latence entre nous, donc voilà, c'est pas évident. Encore une fois, voilà, c'est les conditions particulières d'intervention. On espère qu'en 2021, ce sera plus simple. Alors, on va aborder un autre dossier, une autre campagne menée par la FSF. Alors là, ça va être aussi un petit peu technique, mais je vous fais confiance pour le rendre compréhensible. C'est ce qu'on appelle le Secure Boot. Alors, est-ce que l'un de vous veut expliquer la problématique déjà, est-ce que fait la FSF sur cette problématique dans ce qu'on appelle en anglais Secure Boot, peut-être Geoffrey?
Le problème avec Secure Boot, c'est que la compagnie qui a fabriqué l'ordinateur a tous les droits, vous n'avez pas les droits de changer le système operating system. On appelle de temps en temps Secure Boot Restricted Boot parce que ce que nous voulons, c'est que les utilisateurs ont le droit de changer ce qu'ils veulent changer dans ces ordinateurs. C'est très simple. Pour que les utilisateurs auront les droits et le pouvoir.
Edil, est-ce que tu peux peut-être compléter?
C'est-à-dire que tous les auditeurs doivent le constater aussi, quand on vous livre un matériel, quel qu'il soit, quand on vous donne entre les mains des outils informatiques, eh bien, on vous dit « oui, on s'occupe de tout, on s'occupe de votre sécurité, tout est bien configuré, vous ne risquez rien ». Et en particulier, là, c'est une façon pour les fabricants d'ordinateurs et de logiciels de protéger de garder pour eux la possibilité de vendre quelque chose qu'ils ont décidé de vendre et de pas laisser les utilisateurs mettre quelque chose qui pourrait répondre mieux à leurs besoins ou qui pourrait être moins cher, va savoir, ou tout simplement qu'ils veulent avoir parce qu'ils en ont besoin. Donc le Secure Boot, c'est au moment de lancer le système d'exploitation, l'ordinateur, le BIOS de l'ordinateur se vérifie que le système d'exploitation en question est bien, comme ils disent, secure, mais en tout cas ça veut plutôt dire qu'il est conforme à ce que le vendeur de l'ordinateur et du logiciel veut que ce soit. Et donc il ne s'agit pas du tout forcément de protéger, il se réfugie derrière le prétexte de protéger votre sécurité, mais en réalité il vous empêche de faire autre chose que d'utiliser ce qu'ils vous ont vendu.
Donc pour bien comprendre, imaginez quand vous démarrez un ordinateur, en fait ce qui va démarrer au départ, c'est ce qu'on appelle un logiciel de boot, de démarrage. Donc il y avait des versions il y a quelques années, si vous vous souvenez, vous tapiez la touche F2 ou je ne sais plus quoi et vous pouviez configurer des trucs. Aujourd'hui, ces outils, ces logiciels, donc qui démarrent avant même le système d'exploitation, avant même Microsoft Windows, Mac ou GNU Linux, aujourd'hui ces outils sont devenus de plus en plus performants et il y a quelques années, des gens ont poussé cette fonctionnalité connue sous le nom de Secure Boot, donc démarrage sécurisé, qui en fait, il y a des clés qui vont dire que tel système va être autorisé à démarrer. Donc par exemple, évidemment, Microsoft Windows sera autorisé à démarrer, mais les autres systèmes ne seront pas autorisés à démarrer. Et donc c'est pour ça que Geoffrey tout à l'heure a utilisé le terme de restricted boot, c'est-à-dire de démarrage restreint, c'est-à-dire qu'on restreint les capacités des systèmes à démarrer, et que nous en français, on emploie le terme en général d'informatique déloyale. C'est-à-dire sous, comme le dit Odile, comme tu le dis, sous prétexte de sécuriser un démarrage de machine, en fait, on installe un contrôle d'usage, c'est-à-dire qu'on décide de quel système d'exploitation derrière pourra démarrer. Et donc, de facto, c'est un frein au développement du logiciel libre, parce qu'évidemment, ça pose des problèmes techniques. Est-ce que je résume la situation ?
À mon avis, oui. Frédéric, tu la connais tout aussi bien que nous. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de savoir ce que la FSF fait en ce moment. Et en fait, ils sont en train de faire des choses pour compléter, il y a déjà tout un dossier qui est disponible sur le site fsf.org, mais ils sont en train de faire tout un travail technique pour améliorer ça. Je ne sais pas si Geoffrey peut nous en donner la primeur, peut nous expliquer ce qu'elles sont en train de faire.
On a des efforts chaque an d'améliorer la situation, parce que ça change chaque an.
Oui.
Alors, en fait, dans les
améliorer la documentation et le... Sur la question du démarrage en question.
D'accord. Et donc, si je me souviens bien, une des actions, c'est de développer des alternatives à ces fameux outils de démarrage, et notamment de développer LibreBoot, qui serait une version respectueuse des libertés des utilisateurs et des utilisatrices, et qu'on pourrait potentiellement installer sur des ordinateurs, et qui pourrait même être préinstallé sur des ordinateurs du commerce. Est-ce que ça fait partie des objectifs, du travail de la FSF, de proposer une alternative à ce Secure Boot ?
Oui, bien sûr. Oui.
D'accord. Ok. Et donc ce travail aujourd'hui, j'imagine que c'est un travail qui est techniquement complexe, qui prend du temps. Est-ce que c'est fait par du... Et ça me fera penser qu'après la pause musicale, on parlera peut-être un petit peu de l'organisation de la fondation. Est-ce que c'est des bénévoles qui travaillent dessus? Est-ce que c'est des gens qui sont payés pour travailler sur SecureBoot, sur LibreBoot?
Les deux, bénévoles et des personnes payées.
D'accord. Bon, ce que je propose, c'est qu'on va faire une petite, parce que je vois le temps qui avance, on va faire une petite pause musicale. Donc, Geoffrey et Odile, vous restez connectés sur le pont téléphonique le temps de la pause, évidemment, musicale. Alors, je retrouve ma petite fiche pour savoir ce qu'on va écouter. Donc, on va continuer notre voyage avec Darren Curtis. On va écouter The Death March par Darren Curtis. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
D'écouter The Death March par Darren Curtis, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 en Ile-de-France et en DAB+, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre sujet principal qui porte sur la Fondation pour le logiciel libre, Free Software Foundation, fsf.org, avec Geoffrey Knoth, président de la Fondation, et Odile Benassi, administratrice de la Fondation. Juste avant la pause musicale, nous parlions des campagnes de la Fondation. On va poursuivre. On a parlé donc de la campagne sur les JavaScript privateurs et le plugin LibreJS. On a parlé également de la problématique de SecureBoot, donc cette informatique déloyale qui contrôle le démarrage de vos systèmes d'exploitation, de vos ordinateurs. Et on va continuer sur les campagnes. Et après, on reviendra un petit peu sur le fonctionnement de la Fondation et puis d'autres questions sur le conseil d'administration. Mais on va rester un petit peu dans la partie matérielle. Donc juste avant la pause, on parlait donc de SecureBoot, c'est-à-dire cette partie logicielle qui s'exécute au démarrage de l'ordinateur juste avant de démarrer le système d'exploitation, mais ça concerne le hardware, est une problématique plus générale, hein, donc même si Fondation pour le logiciel libre, on entend logiciel, mais le hardware est important. Et il y a quelques années, donc la Fondation a lancé une campagne, donc en anglais ça s'appelle Respect Your Freedom, respecte vos libertés, c'est comme ça que je le traduirai en français. Donc quel est l'objectif de cette campagne autour donc du matériel, Geoffrey?
C'est quand même la même chose. Nous voulons que les utilisateurs ont le droit et le pouvoir de contrôler tout avec leurs ordinateurs et leurs téléphones et faire le change s'ils veulent.
Ah d'accord. Et donc, ça concerne quel type de matériel? Est-ce que ça concerne que les ordinateurs ou est-ce que ça peut concerner des imprimantes, des cartes Wi-Fi?
Et les données, ça concerne beaucoup plus maintenant parce qu'il y a le cloud, comme on dit, un grand nuage de données, et qui doit être conservé confidentiel. Il consomme beaucoup.
D'accord.
Oui, il y a toute une liste de matériels qui sont. Il y a tout. En fait, il y a un site qui s'appelle ryf.ssf.org et qui liste des toutes sortes de matériels qui sont certifiés. Qui ne vont pas espionner les utilisateurs ou faire des choses certifiées par la FSF de ce point de vue-là pour des raisons éthiques. Vraiment de tous et tous les matériels peuvent être certifiés.
Donc l'idée, si je comprends bien, c'est qu'en fait, dans le matériel, il peut y avoir des matériels qui posent des problèmes de respect des libertés pour différentes raisons. Et donc le travail de Respect Your Freedom, c'est une sorte de certification. Vous prenez du matériel, ou en tout cas un certain nombre de matériel, vous vérifiez que par rapport à ce qu'il contient, par rapport aux parties logicielles qu'il peut contenir, ça respecte les libertés, et dans ce cas-là, si ça respecte les libertés, cette certification est accordée, et sinon vous travaillez avec l'entreprise ou les personnes qui développent ce matériel pour améliorer les choses. C'est un travail d'amélioration continue, c'est ça ?
Oui, et puis si je vois bien, les fabricants peuvent demander la certification.
Alors ça peut être un critère d'ailleurs de choix. Ce que je vois par exemple, alors c'est marrant parce que je vois que on va parler un peu technique, en tout cas pas technique, mais les coulisses de l'émission Libre à vous. Donc là en régie il y a Patrick qui utilise un laptop sur lequel en fait la carte Wi-Fi interne ne peut pas fonctionner avec des firmware, enfin un micro logiciel libre. Et donc pour cela, pour qu'il puisse quand même avoir du Wi-Fi sur ce laptop, qu'est-ce qu'on fait ? On a commandé une clé USB Wi-Fi. Et ce qui est marrant, c'est que c'est celle que je vois, enfin c'est l'une de celles que je vois sur Respect Your Freedom, la clé wireless G USB adaptateur toute bleue. Donc on branche en USB qui nous permet d'avoir du Wi-Fi et sur lequel il y a du micro logiciel qui est libre, en tout cas qui est compatible libre. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette clé, c'est parce qu'elle est certifiée. Alors je ne sais plus si on l'avait comme vu sur le site de l'FSF ou autre, mais en tout cas elle est certifiée, fonctionner dans un environnement qui respecte les libertés des utilisateurs et des utilisatrices. Donc c'est un peu le but de cette certification.
Je crois que c'est vraiment un problématique très importante parce que la plupart des gens que vous connaissez, qui vous leur dites mais donc arrêtez donc de vous embêter avec toute cette publicité et avec tous ces trucs qui fonctionnent pas et qui sont lents, etc. Passez donc sous Linux. Mais après, les gens ils achètent, je sais pas moi, une imprimante et ils pensent que ça va pouvoir fonctionner, mais non. La plupart du temps, non. Il faut, avant d'acheter un matériel, quand on est sous logiciel libre, il faut se poser la question, est-ce qu'il va fonctionner avec les logiciels libres? Et c'est pas parce que les logiciels libres marchent pas, hein, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment parce que les fabricants de matériel font tout ce qu'ils peuvent pour que ça ne fonctionne que avec Microsoft ou Apple.
Oui, c'est ce qui est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que souvent c'est un peu l'image qu'ont les gens quand ils connaissent pas trop le logiciel libre, ils disent « ouais mais ça marche jamais, c'est de la merde » souvent, alors quand on commence à leur expliquer que, comme tu le dis, c'est fait exprès effectivement pour que ça fonctionne que dans un seul environnement Windows ou Mac, et que finalement les gens du logiciel libre, ce qu'ils font, c'est absolument extraordinaire, parce que dans cet environnement qui n'est pas complexe, qui est hostile, ils arrivent à faire des choses qui fonctionnent. C'est là tout d'un coup ils changent un petit peu de vision. Alors je parcours un petit peu la page donc de Respect Your Freedom de la Free Software Foundation, et je vois qu'il y a aussi des ordinateurs portables, notamment ceux de la société, alors je sais jamais comment ça se prononce, Technoethical. Donc par exemple, il y a un laptop, un T400S, qui est un laptop qui n'est pas très vieux. Hein. Donc Technoethical, c'est une entreprise de mémoire roumaine, qui est en Roumanie. Et cette personne donc, vend un certain nombre de matériels, donc ordinateurs portables. Ils vendent aussi des téléphones. Alors je le sais pourquoi, parce que quand je me suis acheté d'occasion un téléphone il y a quelques années, c'est chez lui que j'ai commandé, parce que justement, il vendait un téléphone, donc en l'occurrence un Samsung S2 recyclé, avec dessus un système d'exploitation téléphone, alors quasiment entièrement libre, c'est-à-dire autant qu'on puisse le faire, qui s'appelle Replicant, et sur lequel d'ailleurs la FSF travaille aussi. Donc en allant sur ce site-là, on peut avoir donc du matériel qui a été validé par rapport aux libertés, validé à la fois parce que l'entreprise s'engage, mais aussi parce que la FSF techniquement a vérifié. Donc je suppose qu'il y a des gens au sein de la FSF, bénévoles ou membres de l'équipe, qui vérifient effectivement cette conformité. Geoffrey.
Oui, oui, non, c'est tout vrai, c'est ce que vous avez dit.
D'accord.
C'est-à-dire, en fait, oui, il y a des gens Il y a des gens qui vérifient, ça se fait pas, c'est pas évidemment qu'il y a des gens qui vérifient. Et est-ce qu'ils sont bénévoles ou est-ce qu'ils sont salariés, payés pour ce travail, Geoffrey?
La majorité sont bénévoles.
La majorité sont bénévoles.
D'accord.
On peut payer, on paye. Si un projet très sérieux, on peut payer. Mais la majorité de ces projets sont bénévoles.
D'accord. Mais c'est important parce que la place des bénévoles, effectivement, est fondamentale. Mais donc la FSF peut aussi, en cas de besoin ou de projet important, participer à un financement, comme elle l'a fait dans de nombreuses occasions. Il faut se souvenir que la FSF est à l'origine de nombreux projets du logiciel libre, quand il y a eu un besoin. Donc ça, c'est important de le préciser. Donc on encourage les gens à aller voir donc, ce site, donc, c'est Respect Your Freedom, donc Respecte Vos Libertés, donc c'est ryf.fsf.org, sur lequel vous allez trouver donc, du matériel certifié. Et on peut imaginer évidemment qu'il y aura de plus en plus de matériel certifié Respect Your Freedom dans l'avenir et qui va faciliter en fait le choix de ce matériel. Parce que comme tu le disais, Odile, l'une des difficultés quand on achète du matériel, c'est d'être sûr qu'il va fonctionner pleinement avec un système GNU Linux. Tu parlais des imprimantes, les imprimantes c'est aussi un monde qui est très hostile pour nous. Et donc c'est toujours très agréable quand il y a des sites qui disent bah voilà, là ça va fonctionner parce qu'on a testé, ça va fonctionner en plus en 100% logiciel libre, parce que des fois ça peut fonctionner mais en installant du logiciel privateur, hein, ce qu'on appelle des micro-logiciels. Alors des fois, il n'y a pas tellement le choix pour certaines personnes, mais si on peut l'éviter, je prenais tout à l'heure l'exemple de la carte Wi-Fi, hein, le fait de mettre une clé USB Wi-Fi, ça nous apporte de la liberté, mais c'est vrai que c'est moins pratique que d'avoir la carte directement à l'intérieur. Mais il faut... la liberté demande des fois des efforts, enfin demande souvent des efforts. Donc ça, c'est une campagne autour du matériel. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette partie matérielle? Non, c'est bon.
Okay.
Ça a l'air,
ok. Alors, il y a bien d'autres campagnes de la Fondation, mais je vois que le temps quand même un petit peu avance. J'ai vu que la Fondation, alors ça c'est quelque chose, je ne sais pas si on rentre ça dans les campagnes, mais c'est assez récent, j'ai vu que la Fondation faisait des vidéos. Alors j'ai vu hier une vidéo autour d'une dystopie avec une scientifique qui aurait pu faire une découverte magnifique, révolutionnaire dans la science, si jamais elle avait été autorisée à pouvoir partager ses recherches et utiliser et modifier le code d'un logiciel, alors qu'en fait dans la réalité c'est un logiciel privateur avec un accord de non-divulgation. Donc c'est une vidéo de 2-3 minutes hein, et j'ai vu que c'est pas la première, hein, il y en a d'autres. Est-ce que c'est un nouvel axe d'action de la Fondation de faire des vidéos courtes de sensibilisation autour de la question des libertés informatiques, Geoffrey?
Oui, ça commence, c'est ça. On fait beaucoup de vidéos maintenant. Nous ferons de plus.
Et pour faire ces vidéos, vous les faites comment? Vous avez fait appel à quelqu'un qui vous les faites tout en interne ou vous avez quelqu'un avec qui vous travaillez dont le métier justement c'est de faire ce travail de vidéo, parce que c'est des vidéos qui sont bien faites. C'est pas évident de faire une vidéo pédagogique compréhensible. Donc comment vous le faites?
Ce sont des bénévoles qui nous donnent des vidéos et nous les aimons. Ce sont des bons vidéos.
D'accord. Ah donc c'est des bénévoles qui vous proposent ça et qui font les vidéos en fait.
Mais il y a un service de communication assez important à la FSF. Ce sont des salariés et je crois que ça passe par là aussi.
Oui.
D'accord, oui, effectivement.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Exactement. Merci, Odile.
Alors justement, tiens, vu que tu en parles, Odile, on va parler un petit peu de l'organisation, parce que je ne veux pas oublier d'en parler. Donc la FSF aujourd'hui, c'est une... Donc il y a des bénévoles au sein du conseil d'administration, et il y a une équipe salariée, une équipe de mémoire d'une dizaine de personnes. Quels sont les différentes, on va dire, les différents pôles? Ces salariés, ils s'occupent de quoi? Est-ce qu'ils s'occupent d'administration système? Est-ce qu'ils s'occupent de communication, comme vient de le dire Odile, de campagne?
Oui, déjà ces deux choses-là, oui. Et puis il y a des juristes, mais de mémoire, je ne sais pas. Geoff, tu sais exactement?
Non, ils font tout. Ils travaillent très bien. Organise des campagnes, ils font beaucoup.
Oui, enfin, c'est une association assez importante. Hein. Il y a beaucoup d'adhérents et pas mal de salariés. Donc, il y a un aspect administratif aussi qui n'est pas négligé. Il y a effectivement des serveurs à faire fonctionner, des logiciels à mettre en place, à développer. Et puis, il y a donc le service des campagnes. Donc, je parlais de service de communication, mais c'est au-delà de ça, l'organisation de campagnes de militantisme.
On a des techniciens qui aident beaucoup à des professeurs pour que leur enseignement, leurs cours à MIT, par exemple, soient libres, sur techniques libres. Ils aident beaucoup à des autres.
D'accord.
Intéressant.
Alors, sur le site de la FSF, donc il y a la liste des membres de l'équipe, donc salariés de la FSF. Et effectivement, il y a plus d'une dizaine de personnes. J'ai l'impression que il y en a 13. Et effectivement, donc comme le dit Jeffrey et Odile, donc il y a des gens qui font la partie technique, parce qu'évidemment, la FSF, le projet GNU, c'est des serveurs à maintenir. Même pour les campagnes, il y a des choses à faire. Donc il y a une partie technique. Tu disais, Odile, qu'il y avait une partie au niveau des licences. Je vois qu'effectivement, il y a deux personnes au moins qui s'occupent de la partie licence. Donc, explication sur les licences. Est-ce qu'on parlait en début d'émission sur la mise en conformité par rapport notamment aux licences GNU GPL? Il y a des gens qui sont de l'équipe... comment ça s'appelle, de campagne, ce que tu disais tout à l'heure, Odile. Donc, on a notamment eu récemment le plaisir de travailler avec, enfin d'échanger avec Zoé et puis Greg, notamment dans le cadre de des festivités des 35 ans de la Fondation. Il y a aussi effectivement la partie administrative, alors, et puis la gestion des membres, parce qu'aujourd'hui, alors, il y a combien de membres à la FSF c'est quoi, c'est 5000 membres, 10000 membres? Il y a combien de membres aujourd'hui à la FSF?
Et aussi, on a un directeur et son assistant qui fassent beaucoup.
Alors, le directeur, c'est John Sullivan.
Il parle avec tous les autres organisations.
Tout à fait. John Sullivan est quelqu'un avec qui on a beaucoup de contacts et qu'on a eu le plaisir de voir en France plusieurs fois. Voilà. Et donc, la fondation, donc là, l'organisation...
Il y a aussi Libre Planète, hein, qu'il ne faut pas oublier. Il y a l'organisation d'un grand événement qui s'appelle Libre Planète.
Alors, effectivement, tu as raison d'en parler. Libre Planète qui a lieu donc, chaque année au mois de mars au MIT. À titre personnel, j'y suis allé, j'ai eu le plaisir d'y aller deux fois, et c'est vraiment avec les rencontres mondiales du logiciel libre que tu connais bien, Odile, parce que tu as participé grandement à leur organisation. C'est vraiment l'événement le plus libriste que je connaisse. Franchement, c'était un grand plaisir d'y aller. La prochaine édition, donc ça sera en mars 2021, se fera entièrement à distance au vu évidemment des conditions sanitaire, donc ça permet à des gens d'intervenir, et c'est vraiment un événement vraiment purement libriste, extraordinaire, et effectivement la préparation de cet événement prend beaucoup de temps. Alors sur le fonctionnement de la FSF, donc la FSF donc, a une équipe, a des bénévoles, mais il y a une équipe salariée, donc je viens de le dire, d'une dizaine de personnes. Mais comment est financée la FSF? Est-ce que c'est uniquement la cotisation des membres, et vous avez combien de membres à peu près, ou est-ce qu'il y a d'autres sources de financement?
Frédéric, la question du nombre des membres, je crois qu'elle n'est pas aussi pertinente qu'en France, parce
D'accord.
que les gens viennent à la FSF pour soutenir financièrement, ou bien ils viennent pour travailler sur des projets. Et je crois qu'il y a une comptabilisation des gens qui soutiennent financièrement, mais il n'y a pas de comptabilisation des gens qui viennent juste pour travailler sur les projets. Or, les deux sont très importants.
Ah, je suis d'accord.
Et sinon, par rapport à l'argent, il y a aussi des donateurs qui donnent beaucoup plus d'argent.
D'accord, donc c'est des donateurs personnes physiques et aussi éventuellement des entreprises.
Voilà.
D'accord.
Ça peut être toutes sortes de choses et de gens. Ouais. Donc maintenant, oui. La conservation, de correctement faire évoluer les principes et les valeurs du logiciel libre, ça c'est le rôle des administrateurs, particulièrement. C'est pas le rôle des membres.
Tout à fait.
Bizarrement.
Alors, bizarrement ou pas?
Parce que la FSF veut pas de risque de prise de contrôle.
On garde les missions.
Ah oui.
On doit garder la mission.
Alors ça, c'est intéressant. On va aborder ce sujet parce qu'il nous reste très peu de temps, mais c'est un sujet important sur le fonctionnement de la FSF. Alors déjà avant, donc Jeff, alors Odile, toi, tu es membre administratrice de la FSF depuis quelques mois, mais justement j'ai une question pour toi. Geoffrey, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, vous êtes membre de la FSF et de son conseil d'administration depuis très longtemps. Je vais donc rappeler aux gens, pour bien comprendre ma question, c'est que donc la FSF a été créée en 1985 par Richard Stallman, qui est donc le fondateur du mouvement du logiciel libre. Il en a été président jusqu'en septembre 2019, donc il y a un an. Et suite à des propos tenus dans le cadre de l'affaire Epstein aux États-Unis, Richard Stallman a démissionné l'an dernier. Et donc, c'est une organisation qui, pendant plus de 30 ans, a été menée par Richard Stallman. Geoffrey, vous avez pris la succession de Richard Stallman. Donc, j'ai envie de vous demander un petit peu comment vous avez vécu le fait de succéder à une telle personnalité et comment ça se passe.
Bon, ça fait un peu difficile. Moi, je dirais que mon objectif, c'est stabilité, de continuer la mission et pour garantir que la fondation va survivre et pas perdre la mission. C'est ce que je vais rien changer dans la mission. La mission est bonne. Et on va le poursuivre.
D'accord, donc vous voyez votre rôle effectivement dans la suite logique du travail de Richard Stallman et de surtout conserver ce que c'est
alors Richard est le philosophe. Et moi, je ne suis pas le philosophe. C'est lui qui est le philosophe. Mais moi, comme je comprends, je représente stabilité pour ce moment. Et le futur, on aurait des jeunes qui sont des militants pour le logiciel libre, et ça, c'est le futur. Mais pour maintenant, je crois que je suis stabilité. C'est très simple, c'est pas trop compliqué.
D'accord, ok. Donc Richard, le philosophe, la stabilité et conserver la mission. Odile, donc toi, tu as intégré la fondation en tant qu'administratrice récemment. Bah, j'ai un peu envie de te poser la même question. Comment tu as vécu cette... En plus, tu es la première européenne à intégrer le conseil d'administration de la fondation. Oui. Hein. Comment tu as vécu ça, en fait?
Alors, sans évidemment... C'était un peu voulu. Enfin, la FSF est une fondation américaine qui répond aux droits américains et tout. Mais en fait, le but, il est pas proprement américain. Et donc... je crois que c'était voulu de leur part de chercher à s'ouvrir un peu au reste du monde. Voilà. Et sinon, on fonctionne quand même de manière collégiale. Hein. Et Richard Stallman est là aussi pour le travail, pour travailler avec nous. C'est pas il n'est pas sorti de la fondation.
Alors, je vais revenir sur Richard donc juste après, parce que je voulais juste finir sur ton ressenti personnel.
Oui, sur mon ressenti, j'étais très fière d'être accueillie de cette manière pour participer à cette mission tellement importante de conservation et de faire vivre les valeurs du logiciel libre. C'est tellement, tellement important pour le monde et très sous-estimé, parce que le logiciel, ça se voit pas bien. C'est derrière les téléphones, c'est derrière les matériels qu'on utilise. On voit pas bien le rôle du logiciel. Il faut être plus ou moins informaticien pour comprendre l'importance. Mais le logiciel est partout et donc les principes qui le gouvernent sont d'une importance pour tous les instants, de notre vie. Actuellement, il y a la question des données médicales là, qui vient sur le devant de la scène. Mais en fait, tout dépend du logiciel et de la façon dont les choses sont traitées, nos données et qu'est-ce que les gens s'autorisent à faire avec nos machines et à faire avec nous finalement, parce que des logiciels non libres sont c'est une prise de pouvoir sur nous-mêmes, hein, sur les citoyens.
Oui, ça me fait penser à une citation de Richard, justement, Stallman, dans Libération, il y a quelques années, qui expliquait que la liberté informatique n'était pas supérieure à toutes les autres libertés, mais elle était la base aujourd'hui de toutes les autres libertés, parce que sans liberté informatique...
Oui, c'est une sorte de précondition,
c'est une
en fait.
Précondition, voilà, une condition nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire. Donc, c'est voilà. cette fierté. Je vois le temps qui file, il nous reste très peu de temps. et avant de poser une question quand même à Geoffrey, notamment par rapport à un des propos souvent tenus par Gérard, tu disais que Richard, donc Richard Stallman, est toujours présent auprès de la FSF, c'est ça?
Ah oui, absolument.
Il est présent, ça veut dire je communique avec lui chaque semaine. Nous avons des questions de philosophie et nous parlons, il écrit des essais, il guide les développeurs, il travaille, oui.
D'accord. Alors Jeffrey, souvent Richard Stallman, enfin même à peu près à toute conférence quand il vient en France, il commence sa conférence par trois mots. Il dit « Je peux définir le logiciel libre en trois mots, liberté, égalité, fraternité », qui est la devise républicaine française. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ces mots « liberté, égalité, fraternité » ?
C'est la même chose que pour vous. Moi, quand j'étais petit, j'allais au lycée français de New York, alors je comprends ces mots. Et ces mots, pour moi, c'est la liberté aussi des logiciels libres et d'informatique et de civilisation. C'est très important, ces trois mots.
D'accord. Est-ce que vous, on va arriver au terme de notre échange, est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose ou passer un message ou faire une annonce, Geoffrey?
Il n'y a pas de spécial message. Vivre libre.
Certains, oui, ça... moi je dirais, je vais redire ce que j'ai dit au début. Allez voir le site fsf.org et si vous comprenez un peu l'anglais, essayez de voir si vous pouvez pas vous inspirer de ce qui est fait pour votre propre, soit pour vous-même, aussi, soit pour votre travail militant, si vous êtes militant.
Et aussi le site gnu.org. À des traductions en français. Nous espérons de faire des traductions pour fsf.org, mais GNU a déjà des traductions en français.
Oui, et dans beaucoup de langues, oui, absolument. Puis c'est là qu'il y a la philosophie qui est derrière tout ça.
Alors exactement, gnu.org. Alors, et ça tombe bien parce que Patrick, qui est en régie aujourd'hui, donc qui est bénévole à l'April, est également bénévole au sein de notre groupe de travail qu'on appelle TradGnu, qu'on a créé en 1996 lors de la création de l'April, et qui justement a en charge de la traduction de gnu.org en français. Donc Patrick est l'un de ceux qui traduit en français gnu.org. Donc effectivement, allez voir aussi le site gnu.org sur la partie philosophie, fsf.org sur les campagnes, il y a des parties qui sont en français, la lettre d'information...
gnu.org pour les licences aussi.
Pour les licences. Il y a la lettre d'information mensuelle de la FSF qui est disponible en anglais et également en français parce qu'on l'a traduit en français et je crois aussi en espagnol. Mais en tout cas, malgré les conditions techniques un petit peu difficiles, Geoffrey Knoth et Odile Benassi, je vous remercie d'avoir participé donc, à cette émission de présentation de la Fondation pour le logiciel libre. On essaiera d'en refaire une en 2021 mais dans des conditions meilleures avec sans doute d'autres outils pour éviter les problèmes techniques. En tout cas, je vous remercie de votre contribution, de votre intervention. Je remercie grandement Geoffrey d'être intervenu en français. J'espère que voilà, vous allez passer une bonne fin de journée puis qu'on aura l'occasion de se voir en 2021.
Merci pour cette invitation, Frédéric.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Frédéric.
Eh bien, c'est un plaisir.